Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Haloud Mouni.
Chenni Biri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le Grand Dialogue de ce jeudi, nous avons voulu nous pencher sur une question qui paraît préoccupante ces dernières années au Mali, la protection et la promotion des droits de l'enfant dans le pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1 million d'enfants actuellement hors du système scolaire, 200 000 enfants qui voient leur scolarité compromise par le fait du conflit au nord du pays, 20 000 à 40 000 enfants utilisés pour l'exploitation artisanale de l'or avec tous ce que cela comporte comme risque, des milliers d'enfants sans acte de naissance parce que nés pendant l'occupation des régions du Nord. Les problèmes, l'enfance au Mali en connaît assez donc ces derniers temps, des problèmes sur lesquels vont se prononcer nos invités qui sont Madame Diawara Bintou Koulibaly de l'Association pour le progrès et la défense des femmes APDF Bamako, Seyina Maïga APDF Gao, que nous joindrons au téléphone, et Lala Ouangara, la présidente du Parlement des enfants. Le Mali a ratifié la plupart des conventions internationales qui se rapportent aux droits de l'enfant. Le pays a d'ailleurs été l'un des premiers à avoir signé puis ratifié la convention relative aux droits de l'enfant le 20 septembre 1990. La volonté semble donc être là, mais les politiques menées sont souvent loin d'aboutir aux résultats escomptés. Avec les événements vécus par le pays ces dernières années, la réalité de l'enfance malienne préoccupe à plus d'un titre. Un exemple, les enfants nés pendant l'occupation des régions du Nord, ils sont nombreux à ne pas avoir d'acte de naissance. C'est bien grave comme situation, non, madame? Je crois que nous allons demander à Zina, APDF, à Madame Diawara et Bintou Koulibaly, plutôt APDF Bamako.
Merci pour l'intérêt que vous accordez à notre action. Et moi, je pense que c'est aussi frustrant et désolant parce que les enfants nés pendant cette crise déjà sont stigmatisés par rapport aux autres enfants. Nous avons reçu des cas où la maman disait que l'enfant ne pouvait pas sortir parce qu'on l'appelait l'enfant des rebelles. Donc l'enfant se sentait déjà frustré. Et en plus, il n'a pas d'acte de naissance, l'acte fondamental d'un enfant pour bénéficier des avantages des enfants, des autres enfants. Donc moi, je pense que la situation était très grave et c'est lors d'une formation avec les femmes à Gao qu'on nous a signifié que vraiment ce problème existe et il y a beaucoup d'enfants qui en souffrent.
Alors, Zeyina Maïga de la PDF Gao est en ligne. Dites-nous, Madame Maïga, c'est une situation qui vous préoccupe beaucoup, le fait que beaucoup d'enfants nés pendant le conflit, pendant l'occupation du Nord, n'ont pas d'acte de naissance.
Oui, j'ai bien dit, la FEDES a fait vraiment beaucoup, la FEDES a fait de son mieux, mais c'est lors de l'activité de remise des actes de naissance, de remise officielle des actes de naissance à Gao, que je me suis rendu compte que ce que nous, on a eu à faire, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Parce qu'il en reste tellement d'enfants sans acte de naissance que je ne peux même pas vous dire le nombre. Et depuis la remise officielle, le 15 juin, la remise officielle des actes de naissance, jusqu'au jour où je vous parle, chaque jour on reçoit des demandes, chaque jour on reçoit des parents qui viennent avec leurs enfants pour dire que eux aussi, leurs enfants n'ont pas d'acte de naissance et de tout faire vraiment pour les mettre dans leurs droits.
À ce jour, est-ce qu'on peut avoir une estimation? À combien peut-on évaluer les enfants qui sont dans cette situation?
Vraiment, je ne peux pas vous dire exactement combien, mais c'est quand même des milliers d'enfants.
Des milliers, vous dites bien.
C'est quand même des milliers d'enfants. Ça doit être plus de 1000, 2000, je ne sais pas, mais c'est quand même plus que ce que nous, on a eu à faire. Alors, pour moi, on en a fait beaucoup, mais vraiment, depuis la remise jusqu'aujourd'hui, je crois que ce que nous, on a eu à faire, c'est comme une goutte d'eau dans la mer.
Vous allez donc continuer, madame.
Jusqu'à présent, il en reste encore beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore d'acte de naissance.
Donc, le combat va continuer?
Le combat va continuer. La PDF va continuer vraiment à chercher des bailleurs, à chercher des
des partenaires qui vont vraiment appuyer la PDF dans ce sens pour que la PDF puisse vraiment atteindre son objectif. L'objectif de la PDF, c'est quoi? C'est de vraiment mettre tous ces enfants nés pendant l'occupation qui n'ont pas pu avoir d'acte de naissance de l'école dans leur droit. Parce qu'avoir un acte de naissance, c'est un droit fondamental de l'enfant.
Alors, Mme Moseïna Maïga, nous allons vous retrouver toujours au téléphone au cours de ce débat et tout dans ce studio pour donner la parole à Lala Wangara. Elle est la présidente du Parlement des enfants. Dites-nous, Lala Wangara, la situation que nous évoquons aujourd'hui, est-ce une situation qui vous touche?
Après l'intervention de mes deux mamans, je ne peux pas dire grand-chose. Mais bon, c'est une réalité qui est là. Après la naissance de ces milliers d'enfants nés entre 2012 jusqu'à nos jours, dans cette crise-là, nous constatons qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup, énormément d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. L'acte de naissance étant le premier droit même de l'enfant après sa naissance. Si ces enfants manquent d'acte de naissance, comment pourrons-nous lutter contre un certain nombre de violations de droits de l'enfant? Parce que nous disons que nous voulons d'abord que les enfants aient accès à une protection de qualité, des soins de santé. Quand un enfant n'a pas d'acte de naissance en cas de maladie et qu'il va à l'hôpital, c'est tout un problème. Sans acte de naissance, sans dossier de l'enfant. En plus, le mariage précoce, nous voulons lutter contre le mariage précoce. Quand un enfant n'a pas d'acte de naissance et qu'il grandit et qu'on le donne en mariage, nous les défenseurs des droits de l'enfant, et qu'on parte dire que cet enfant est bel et bien un enfant qui n'est pas en âge de se marier, on va nous dire, mais bien sûr, cet enfant a plus de 18 ans. Maintenant, quelles sont les preuves que nous avons que cet enfant n'a pas plus de 18 ans? On ne l'a pas. Donc, c'est quelque chose de très grave. Les autorités en parlent, tout le monde en parle, parce que c'est grave. Dans les jours à venir, dans les années à venir, quand ces enfants n'auront pas d'acte de naissance, ça sera tout un problème pour eux, même sur le marché de l'emploi.
Alors, dites à présent, en l'absence de l'administration sur le terrain, que pouvait-on faire pour traiter les cas de ces enfants, Mme Diawara Binto Koulibaly? Y avait-il une solution?
Bon, là, moi je pense qu'il serait un peu difficile de les traiter, mais la solution qui était proposée... La solution alternative qui était proposée, c'est de faire la liste de ces enfants nés et prendre l'année, le jour et puis l'heure. Comme ça, l'enregistrement, il y a un registre pour les enregistrer. Et après, nous, on s'est engagé maintenant pour faire l'état civil.
Zina Maïga, APDF Gao est toujours en ligne. Dites-nous, madame, vous aussi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, puisqu'il n'y avait pas d'administration quand même sur place, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour arranger cette situation?
Bon, comme on l'a fait la première fois, comme la PDF l'a fait la première fois, je crois qu'on doit identifier d'abord les enfants qui n'ont pas pu avoir d'acte de naissance, qui sont nés pendant l'occupation, qui n'ont pas pu avoir d'acte de naissance, les enregistrer, comme tu viens de le dire, les identifier, les enregistrer et maintenant leur faire des jugements supplétifs au niveau de la justice et leur faire les actes de naissance au niveau de la mairie, au niveau des mairies. C'est comme ça qu'on doit procéder pour que ces enfants-là puissent vraiment être dans leurs droits.
Alors, la situation qui est là est donc grave. Vous êtes une association. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, par exemple, d'interpeller le gouvernement, les autorités?
Bon, moi, je pense que...
Ouais, voilà, Madame Diawara.
Allez-y. Je pense qu'on le fait. On a toujours interpellé le gouvernement. Parce que pendant les journées d'interpellation démocratique au Mali, la PDF a toujours interpellé le gouvernement pour son rôle qu'il doit jouer. Non seulement pour le pays, mais spécifiquement pour les femmes et les enfants. Donc on a toujours interpellé le gouvernement.
Mais sur ce dossier concrètement...
Sur ce dossier concrètement, je pense que lorsque nous avons été à Gao, on a même écrit dans les journaux. Je pense que beaucoup ont eu à lire ce que la PDF a mis dans les journaux. Donc, c'était toujours pour rappeler le gouvernement à jouer son rôle. Parce qu'on sait que les services sociaux de base étaient absents à Gao.
Vous dites, vous avez interpellé donc le gouvernement. Est-ce qu'il y a eu une réaction jusqu'à cette date?
Bon, il y a eu une réaction parce que lorsque nous avons été pour la remise des dossiers, nous avons rendu visite dans certains services sociaux de base qui ont dit vraiment qu'il y a eu beaucoup d'améliorations.
Alors, à présent, Lala Wangara, vous qui êtes donc la présidente du Parlement des enfants, est-ce que vous ne pensez pas que les autorités ont un rôle important à jouer par rapport à la gestion de ces dossiers?
Bien sûr, les autorités ont un rôle important à jouer par rapport à tout aujourd'hui. La crise du Nord, sa résolution et tout ce qui s'ensuit, on se dit que ce sont les autorités qui ont le plus grand rôle à jouer. Et nous avons fait des interpellations. Je vois les tanties, elles ont fait des interpellations, les tontons. Dans tous les discours aujourd'hui, on se dit que la base d'abord, parce que quand les enfants eux-mêmes n'ont pas d'acte de naissance d'abord, avons-nous l'habitude de dire que l'enfant, les enfants sont l'enfant, c'est l'avenir de demain. Et que ces mêmes enfants n'ont même pas d'acte de naissance, c'est grave. Donc tout le monde en parle. Les autorités ont un rôle à jouer justement lors de nos interventions, lors de nos cérémonies, la commémoration du 16 juin, toutes les activités. Depuis cette crise-là, on n'a jamais cessé de répéter que nous attirons l'attention de tout le monde sur la crise sociopolitique dans notre pays et les milliers d'enfants nés qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est aux autorités d'essayer de revoir. Oui, la société civile, oui, nous les associations, nous avons un rôle à jouer, mais en grande partie, c'est à l'État d'essayer de voir les voies et moyens nécessaires pour remédier à ce problème.
Une question à présent. Est-ce qu'on rencontre ce genre de situation dans les camps des réfugiés? Je pose la question à Zahid Lamaïga, PDF Gao.
Hein?
Oui? Ce genre de situation, est-ce qu'on la rencontre par exemple dans les camps de réfugiés? Parce que là-bas, il y a du monde aussi. Des
oui,
enfants qui sont dans une...
Oui.
Allez-y, allez-y.
Oui, mais malheureusement, à Gao, il n'y a pas de camp de réfugiés.
Oui, c'est ça, mais il y a des parties.
Oui. Mais avec les relations, oui, avec les relations, vraiment, on sait qu'il y a des cas pareils qui sont aussi toujours gérés par les ONG. Beaucoup de cas, quand même, ont été gérés par les ONG.
Alors, s'il y a des cas d'enfants qui n'ont donc pas d'acte de naissance au niveau des camps.
Il y en a eu dans les camps de réfugiés, mais qui ont été gérés vraiment par les ONG.
Alors,
beaucoup ont été gérés par les ONG.
D'accord. Et retournons ici dans le studio pour donner la parole donc à Mme Diawara Bintou Koulibaly. Dites-nous, madame, puisqu'il y a des cas quand même, du genre des cas d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance au niveau des camps de réfugiés et des camps, les camps, il y en a aussi assez. Ça doit faire une préoccupation aussi pour nous, non?
Oui. Moi, je pense que, comme ma fille a eu à le dire, l'acte de naissance est un droit fondamental de l'enfant. Un enfant qui ne dispose pas d'acte de naissance, c'est un de ses droits qui sont violés comme ça. Donc, moi, je pense qu'il est important. Et on sait que aussi dans les camps des réfugiés que ça existe. Donc, le travail doit continuer et le gouvernement doit fournir des efforts parce qu'il s'est engagé dans plusieurs conventions et dans plusieurs instruments juridiques internationaux qui donnent ces droits-là à l'enfant. Moi, je pense qu'ils doivent tout faire pour que ces enfants-là soient identifiés et qu'on les mette dans leurs droits avant qu'ils ne grandissent et comprennent qu'ils ont été victimes de quelque chose. Parce que ça, c'est une frustration aussi à l'endroit de l'enfant.
Et les associations tentent donc d'interpeller le gouvernement. Vous, madame, disons, Lala Ouangara, vous êtes la présidente du Parlement des enfants. En tant que Parlement des enfants, quand même, je pense qu'il est un peu aussi de votre rôle de tenter de votre côté d'attirer l'attention des autorités sur ces problèmes.
Oui, on l'a fait à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, avant, il faut apporter sa petite pierre avant d'essayer de demander à quelqu'un de faire quelque chose. Nous, au Parlement des enfants, on avait initié le projet et un enfant, un acte de naissance. Pour essayer de voir ce projet consistait à quoi? À doter ces enfants, la plupart de ces enfants. Vous savez, ce problème n'existe pas qu'au nord. Parlons un peu largement sur tout le territoire malien. Vous allez dans certains coins très reculés, à Chicoroni, dans certains quartiers proximatif
dans la banlieue de Bamako,
même qui est la capitale, vous trouverez de nombreux enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous allez même dans certaines écoles un peu, des écoles publiques qui ont un revenu très faible, les écoles vraiment, je m'excuse du terme, entre griffes, pauvres, où vous retrouvez une certaine catégorie d'enfants. Vous trouverez que même ces écoles, les parents négocient maintenant ces directeurs d'école ou ces responsables d'école pour que leurs enfants puissent aller à l'école malgré le fait que ces derniers n'ont pas d'acte de naissance. Donc nous, on s'est dit qu'on allait faire une première phase à Bamako ici pour tester et en tant qu'enfant, essayer de revoir, surtout que maintenant, il y a une direction nationale de l'état civil. Essayer d'approcher cette direction-là pour doter ses enfants soit d'acte de naissance ou de jugement supplétif. Ce projet était en cours. Donc nous-mêmes, à notre niveau, ce projet existe toujours. On cherche les financements et chercher à voir les partenaires qui sont disponibles à nous financer. À notre niveau, on a fait des efforts et on a interpellé le gouvernement. On veut même que le gouvernement nous suive à faire ce projet-là, nous appuie.
Ok. Il est bientôt 17h30 dans ce studio. Nous allons donc observer une pause, une courte pause avant de continuer ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Lala Wangara, la présidente du Parlement des enfants, le disait tout à l'heure, les enfants qui sont nés pendant l'occupation, ils sont nombreux à ne pas avoir date de naissance, mais il y a des enfants qui ne sont pas concernés par ces cas, qui n'ont pas date de naissance. Il paraît qu'il en existe même dans la banlieue de Bamako. Alors, qu'en pensez-vous, Madame Diawara Bintou Koulibaly?
Bon, moi, je pense que l'APDF est la première organisation à avoir fait cette activité. Parce que nous avons été à Dogoduma, c'est derrière la Fiabou, Taliko. Donc nous avons été là-bas pour une sensibilisation sur l'état civil. C'était précisément sur le code du mariage et de la tutelle. Donc à travers cette sensibilisation, nous nous sommes rendus compte là-bas que les mariages ne sont pas célébrés civilement. Donc on s'est engagé dans cette lutte et un jour on a célébré 180 mariages. À Dogoduma.
Mais dites-nous, pourquoi les mariages n'étaient pas célébrés de façon civile?
Parce que pour eux, non seulement ça engendre des coûts, mais après, quand il y a problème, le divorce pose problème. Donc, ils préfèrent marier les femmes religieusement. Donc, nous, on a célébré 180 mariages collectifs. Et c'est l'une des premières organisations qui a organisé le mariage collectif.
Mais pour ce faire, il a fallu que vous sensibilisiez peut-être, non?
Oui, c'est lors d'une sensibilisation. Mm-hmm. On a été pour une sensibilisation sur l'importance du code du mariage et de la tutelle. C'est en ce moment que les femmes ont parlé pour nous dire qu'ici, les femmes sont mariées religieusement. Donc la mairie même a confirmé que par an, ils ont peut-être une dizaine, une quinzaine de mariages. Donc on a fait la sensibilisation et on a identifié les couples volontairement qui veulent se faire marier. Donc on a identifié 180 couples. Et à travers cette sensibilisation, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des milliers d'enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance. Donc en ce moment, nous avons établi l'acte de naissance pour 300 enfants. Et parmi ces 300 enfants, on a choisi 100 qui ont l'âge d'aller à l'école. On les a inscrits et on les a donné le matériel scolaire.
Nous allons joindre Zina Maïga de la PDF au Gao. Dites-nous, Madame Maïga, on dit que hormis le fait qu'il y a eu des enfants quand même qui sont nés sous l'occupation et qui n'ont pas d'acte de naissance, mais il paraît que hormis même ces cas, il y a des cas qu'on peut enregistrer, même ici au niveau de la capitale. Est-ce que des cas pareils sont recensés au niveau de votre région?
Oui, des cas pareils, beaucoup même. Il y en a beaucoup aussi, même avant même l'occupation, des enfants qui sont nés et qui n'ont vraiment pas d'acte de naissance.
Mais comment vous expliquez cela?
Oui, on avait mis l'accent sur vraiment les enfants nés pendant l'occupation. Pour l'activité qu'on vient de faire tout de suite. Sinon, il y en a aussi beaucoup d'enfants, mais beaucoup même aussi qui, avant l'occupation et même après l'occupation, qui sont nés sans acte de naissance. Ça, on a fait aussi le constat. C'est un constat amer, mais il n'y a pas de solution.
Mais à présent, est-ce que vous allez prendre en compte des cas qui ne sont pas forcément liés au fait que aux enfants qui sont nés sous l'occupation? S'il y a d'autres cas, est-ce que vous allez prendre ça en charge?
Obligatoirement, mais ils sont tous des enfants, ils ont le même droit, ils ont tous le droit d'avoir cet acte de naissance-là qui est vraiment un document administratif et de qualité et de valeur. Tous les enfants ont droit à cela. Ce n'est pas seulement les enfants nés pendant l'occupation, mais tout enfant qui n'a pas d'acte de naissance a droit à avoir vraiment cet acte de naissance. Donc même les enfants qui sont nés avant ou après l'occupation doivent avoir vraiment cet acte administratif. Qui va leur servir toute leur vie. C'est un document qui va servir à l'enfant toute sa vie.
Tout à fait, oui. Bon, à présent, nous allons nous intéresser à d'autres conséquences du conflit au Nord. Le conflit au Nord qui a mis en péril la scolarité d'au moins 200 000 enfants. N'y a-t-il pas le risque de voir beaucoup de ces enfants abandonner complètement l'école? Je pose la question à vous, Lala Wangara, présidente du Parlement des enfants. Alors, je crois que vous nous suivez. Nous parlons justement de conséquences du conflit au Nord. Un autre aspect, c'est le cas de la scolarité d'au moins 200 000 enfants qui voient leur scolarité mise en péril. C'est du fait du conflit. C'est quelque chose qui est grave parce qu'il peut y avoir des risques que ces enfants abandonnent complètement l'école. Cette question, vous en tant que parlement des enfants, est-ce qu'elle ne vous préoccupe pas aussi?
Bien sûr que ça nous préoccupe. je vous avais dit que depuis cette crise, nous n'avons jamais arrêté. Moi, personnellement, je le dis, à chaque fin de discours que je prononçais ou un discours même que les vice-présidents ou d'autres enfants parlementaires prononçaient lors des cérémonies, on a dit qu'il fallait qu'à chaque fin de discours, un paragraphe soit réservé à cela. D'ailleurs, j'ai même la phrase en tête tellement que nous avons répété et ce paragraphe-là.
C'est laquelle, la phrase?
Que nous attirons l'attention des autorités ici présentes sur les conditions d'éducation inexistantes dans les régions du Nord, que de milliers d'enfants n'allaient pas à l'école, c'était quelque chose de ce genre. Mmh. Tellement qu'on l'a répété. Et c'est vrai, c'est que ces enfants, au fil du temps, en attendant que l'administration régionale, en attendant que l'école reprenne, ces enfants peuvent à côté avoir un petit truc de découragement où des personnes peuvent leur dire, vas-y, si tu n'as pas, peut-être que ta chance n'est pas dans les études, peut-être que tu n'as pas de chance. Donc, essaie de continuer un autre domaine où...
Allez-y, oui.
Exceller dans quelque chose d'autre, je voulais dire. Mm-hmm. Donc, oui, il y a des risques qui sont là que ces enfants, dans cette attente-là, continuelle, décident de même laisser l'école ou d'aller sur un autre chemin.
Et vous, Madame Diawara Bintou Koulibaly, APDF Bamako, à votre niveau, vous vous rendez compte du risque qu'il y a avec ces 200 enfants, 200 000 enfants, dont la scolarité est en danger à cause du conflit?
Bien sûr. Moi, je pense que les enfants qui sont enrôlés, c'est parce que généralement, ils ne vont plus à l'école, ils n'ont rien à faire, donc ils sont tentés d'aller faire autre chose et facilement, on les enrôle. Ça, c'est une des conséquences. Et puis, les filles qui sont là, qui, au lieu d'aller à l'école, se livrent à autre chose. Actuellement, on sait qu'à Gao, y a plusieurs filles qui mènent d'autres activités indépendamment, et ce n'est pas notre souhait. Moi, je pense que parmi ces enfants aussi, il y a des grossesses indésirées. Il y a toutes sortes de choses. Il y a les maladies transmissibles. Tout cela, c'est parce que les services sociaux de base ne sont pas en place. Donc, ça, les enfants encourent beaucoup de conséquences, surtout les filles. Surtout les filles. Les filles, on est en train d'encourager que les filles aillent à l'école. Et avec la crise, on voit que les filles ne vont pas à l'école. Les filles mènent des activités qui n'est pas à leur actif. Donc, c'est la déscolarisation totale. Et les parents aussi, consciencieusement, sont peinés par rapport à toutes ces actions envers leurs enfants. Parce qu'actuellement, avec la mondialisation, quand l'enfant ne va pas à l'école, c'est très grave. C'est très grave. Donc, ça peut avoir plusieurs conséquences.
Zina Maïga de l'APDF Gao est en ligne. Dites-nous, Zina Maïga, est-ce qu'il y a beaucoup de cas à Gao concernant ces enfants, les enfants dont la scolarité est menacée du fait du conflit?
Vous venez de parler de 200 000 enfants. Moi, je dirais même le contraire. Je dirais le double, le triple, sinon le quadruple de ces enfants qui, aujourd'hui, vraiment posent un grand problème à notre niveau. Ma fille vient de le dire tout de suite. C'est notre langage de tous les jours. À chaque discours aussi, à chaque activité, on le rappelle et aux autorités, aux partenaires, aux bailleurs. On le rappelle chaque jour, on le rappelle. C'est devenu vraiment... je ne sais pas comment l'expliquer. Ça fait très mal au cœur, mais malheureusement, nous, à notre niveau, on n'a pas la solution. Mais notre rôle, c'est vraiment de dénoncer, c'est de décrier, c'est d'en parler pour que l'opinion nationale et internationale soit au courant et vraiment donner un coup de main aux ONG, aux partenaires, à l'APDF particulièrement, vraiment, pour venir à ce besoin qui est là aujourd'hui. Mm-hmm. Et pas seulement les jeunes filles. Quand tu parles des jeunes filles, ça fait mal au cœur, mais il y a aussi les garçons. Les garçons sont plus que les filles dans cette affaire. Les garçons ont carrément abandonné l'école. Ils se livrent à des activités vraiment indépendantes de leur volonté, bien aussi que les filles aussi, comme Bintou vient de le dire, se livrent à des activités indépendantes de leur volonté. Mais tout ça, là, c'est les conséquences vraiment de la crise qui nous a amenés à tout ça. Mais avant même la crise, les jeunes filles ne partaient pas à l'école au Nord, vous le savez plus que moi. On avait ce problème, voilà, la scolarisation des jeunes filles, qu'est-ce qui a amené tout ça là. Mais aujourd'hui, on voit encore, ça a commencé à donner un fruit, mais malheureusement, avec la crise, on a encore régressé de 100 pas.
Il faut reprendre.
On a régressé de 100 pas concernant la scolarisation des jeunes filles.
Il faut reprendre à zéro,
concernant
alors.
Aussi la délinquance. Mm-hmm. Les juvéniles des enfants, des jeunes.
Ah, il y a donc beaucoup...
Vraiment, il y a tout un tas de problèmes. Il y a tout un tas de problèmes au Mali et particulièrement dans les régions du Nord.
Madame Diawara Bintou Koulibaly, vous l'avez dit, il y a eu des cas d'enrôlement, mais en plus de cela, il y a d'autres choses. Il y a eu des déplacés, il y a eu beaucoup d'enfants déplacés, non aussi?
Oui, il y a eu beaucoup d'enfants déplacés. Même à la PDF, on a reçu des étudiantes qui sont venues comme ça. Elles ne savaient pas que faire. Nous avons été obligés de prendre en charge leurs frais de scolarité pour qu'elles puissent étudier à Bamako parce que les parents n'avaient pas les moyens. Donc le déplacement aussi a beaucoup joué contre les filles. Parce que nous travaillons beaucoup surtout avec les filles et les femmes. Donc toutes les filles, parce que nous avons hébergé, pendant la crise, nous avons hébergé des femmes qui étaient accompagnées de leurs filles, de leurs enfants. Donc ça a permis à ces femmes-là de nous en parler. Et on a pris toutes les filles qui étaient à l'école supérieure, qui ne pouvaient pas payer les scolarités. Leurs scolarités ont été prises en charge par la PDF.
Alors, la présidente du Parlement des enfants, Lala Wangara, est-ce que vous êtes au courant du fait qu'il y a eu beaucoup de déplacés? Est-ce que vous en avez rencontré des déplacés du fait du conflit au Nord?
Si, on a fait beaucoup d'activités avec les enfants déplacés particulièrement et même les parents. On a fait des activités avec le camp de déplacés de Nyamana et le camp de déplacés de Nyamakoro. Beaucoup d'activités avec ces deux camps particulièrement. Et en 2013, on a formé à peu près une centaine, je ne sais pas, tous les enfants du camp de Nyamana et tous les enfants du camp de Nyamakoro en deux séries de formations. D'abord sur les droits de l'enfant, les techniques de communication et l'excision, parce que vous êtes bien au courant que l'excision, c'est un fléau qui n'est pas trop vécu dans les régions nord du Mali. Mais on s'est dit qu'avec le retour de ces enfants à Bamako, il est fort probable. On a enregistré un nombre d'enfants, 5 enfants déplacés qui avaient quitté le nord, mais que quand ils sont venus à Bamako et certains qui allaient chez des parents et au sud ici, se sont fait exciser. Pourtant, ces pratiques ne sont pas fréquentes au nord. Donc, on a formé des milliers d'enfants sur l'excision. On a donné des dons à ces enfants. De riz, de sucre, d'huile et ce qui s'ensuit de mille. On a fait des activités de paix, des tournois de paix avec ses enfants, des journées récréatives. On allait à chaque fois, on a écrit des articles parce qu'on a le journal Regard des enfants. Et on a fait le portrait de certains mamans, des portraits croisés d'enfants, des directeurs de ces centres-là. Chacun s'exprimait. Et on allait régulièrement, on produisait des articles sur leur situation.
Alors, je crois que nous allons aborder le troisième volet de ce débat. On le disait donc au début de cette émission, le Mali a ratifié presque tous les textes relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'enfant. Alors, comment comprendre que des dizaines de milliers d'enfants maliens soient utilisés par les orpailleurs? Ça aussi, c'est un sujet qui doit préoccuper la PDF.
Oui. Madame Diawara. Moi, je pense que nous sommes vraiment préoccupés par ça, parce que nous avons même élaboré déjà un projet par rapport à la prise en charge de ces enfants au niveau des zones aurifères. Parce que c'est un problème très grave. C'est un problème très grave parce que les enfants refusent d'étudier pour aller se livrer à leur paillage. Alors que généralement, ils n'en gagnent pas. Ils deviennent souvent malades. Ils viennent, les études sont abandonnées. Ils deviennent très pauvres. Et il se livre à beaucoup de choses au niveau des zones aurifères. Donc, la PDF est en train de mener une action, plusieurs actions à l'endroit de ces enfants au niveau des zones aurifères, qui va les amener non seulement à susciter à ce qu'ils aillent étudier, mais à se protéger contre les maladies infectieuses. Parce que vraiment, ça nous tient à cœur. Et nous voyons aussi que actuellement, avec les zones aurifères, les enfants se livrent à boire de la bière, à la délinquance juvénile, quoi, en quelque sorte. Donc, nous, en tant que défenseurs des droits de l'enfant, nous pensons que nous devons protéger ces enfants-là, les sensibiliser et aller vers les parents afin qu'ils puissent arrêter et aller à l'école.
Il sera 17h45. Dans un instant, nous allons observer la deuxième pause pour continuer ce débat.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Zeina Maïga, APDF Gao, toujours en ligne. Dites-nous, madame, peut-être que vous n'avez pas de cas de ce genre chez vous, mais vous êtes au courant qu'ici, au sud, quand même, il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent l'école pour aller chercher de l'or. C'est une situation qui vous préoccupe?
Oui, c'est une situation qui nous préoccupe parce que c'est des enfants maliens. Ce sont nos enfants. C'est des enfants d'autres mamans, donc ce sont nos enfants. Ça nous préoccupe beaucoup. Il n'y a pas d'autres voyages ici à Gao, mais nous sommes au courant de tout ce qui se passe ici. Mm-hmm. Et chez nous, il y a un cas particulier des enfants, comme Bintou vient de le dire tout de suite. Il y a les enfants enrôlés. Et qui sont revenus en demeure sentiment et qui sont revenus chez eux. Non seulement ils n'ont pas de place encore dans leur famille, ils ont des problèmes dans leur famille pour leur réinsertion familiale, et ils ont aussi des problèmes au niveau de leur cible, qui est la jeunesse. Ils ont des problèmes au niveau de la jeunesse pour être réinsérés au niveau de leur groupe cible, la jeunesse. Mm-hmm. Ça, c'est un problème particulier aussi à soulever et qui aussi est un fléau de l'occupation.
Mmh. Alors,
je ne sais pas si vous êtes au courant, les enfants enrôlés, soit ont été trouvés par des gens qui les ont ramenés, ou bien eux-mêmes, ils ont pu s'échapper et revenir, ou bien d'autres ont regretté et revenir. Mmh. Mais vraiment, c'est un autre cas à part qui aujourd'hui nous préoccupe beaucoup parce que on en parle chaque jour, on fait des activités de sensibilisation par rapport à ces enfants pour les réinsertion, mais je vous dis que c'est aussi un problème vraiment à suivre.
Avec le cas déjà vécu, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes eux-mêmes prennent conscience du danger d'une telle situation s'enrôler? Est-ce qu'ils en ont conscience?
Vraiment, il y en a beaucoup qui ont pris conscience. Il y en a beaucoup qui sont partis d'eux-mêmes, d'autres sont partis, ont été enrôlés vraiment, c'est pas de façon indépendante de leur volonté. D'autres sont partis se redonner d'eux-mêmes, d'autres ont été donnés par des parents. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, il y a eu des jeunes qui aujourd'hui ont eu une reprise de conscience par rapport vraiment à cette activité qu'ils ont menée. Et ils sont revenus en de meilleurs sentiments et eux-mêmes, des fois, nous aident à donner des leçons ou bien à faire des activités de sensibilisation auprès des autres jeunes qui n'ont pas regagné les autres ou bien pour les donner des leçons pour que demain ou après-demain, eux aussi, ils ne vont pas être trompés dans ce piège. Mais vraiment, leur réinsertion auprès de amis, ceux qui sont partis d'eux-mêmes, leur réinsertion auprès de leur famille pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mm-hmm. Ou bien dans les groupes de jeunes pose beaucoup de problèmes.
On a pu quand même régler
beaucoup, mais il en reste encore aussi beaucoup.
Mm-hmm. Donc le combat est à continuer.
Le combat, on continue le combat, Inch'Allah. Mm-hmm.
Lala Wangara, vous avez un commentaire?
Oui, parce que à longueur de journée, les organisations de droits de l'homme et les associations de jeunes, les structures d'enfants, on se bat pour dire qu'il faut, qu'on se bat pour mettre fin à l'exploitation économique des enfants. Et c'est décevant, c'est déplorable de voir que nous-mêmes, les enfants, allions vers cela. Les gens se battent pour nous protéger et nous-mêmes, les enfants, inconscients des dangers de ce problème, on aille vers cela.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants soient justement conscients de ce danger?
Justement, les sensibilisations. Mmh. Et comme Tanti vient de le dire, à travers ce genre d'activité, et quand eux-mêmes, ils ont des témoins à travers la père éducation, ces témoins-là, ces pères qui ont été victimes de cela, qui sont allés se livrer à cela, qui au fil du compte, et se sont rendus compte que ça n'avait pas vraiment d'avantage et que c'était nuisible pour eux, viennent parler de cela, c'est un plus. Et au fait, ça a des conséquences graves qui sont là parce que ces enfants, après leur pêche, pourquoi ils vont vers leur pêche? Parce qu'il y a de l'argent qu'ils gagnent là-dedans. Et après cela, c'est pour un temps restreint. Quand ces enfants reviennent et que cet argent finit, c'est un argent qui est là, qui est éphémère, qui part d'un coup. Peut-être qu'à leur retour, il y a la famille, les amis qui applaudissent, ils reviennent avec de l'argent. Mais cet argent finit d'un coup. Et cet enfant, après avoir gagné une certaine somme d'argent, prend goût à cela, prend goût à aller se livrer à des activités qui font qu'en un temps donné, un temps très, un laps de temps, il puisse gagner ce même nombre, cette même somme d'argent. Donc, il va dorénavant se livrer à d'autres activités. C'est un problème qui est grave.
Alors, l'exploitation minière, justement, est considérée comme l'un des secteurs les plus dangereux au monde. Les autorités maliennes ont-elles, selon vous, conscience des risques que courent les enfants dans les mines artisanales, Madame Diawara?
Bon, on peut dire qu'ils ont conscience, mais ça, c'est dans la pratique. Il ne faut rien de concret pour amener ces enfants-là à arrêter ces pratiques. Parce que chaque fois on décrit, les organisations de la société civile travaillent selon leurs moyens. La lourde tâche, là, c'est le gouvernement. Donc moi, je pense que, surtout le ministère chargé des enfants, il faut qu'on se donne la main, les associations et les ministères tutelles se donnent la main pour pouvoir lutter contre ce fléau. Parce que on dit là, il y a beaucoup de jeunes au Mali, la population est jeune. Mais si la population est jeune, il faut que la population soit préparée pour être de futurs cadres de ce pays. Mais si on les laisse faire, les enfants ne vont plus à l'école, les enfants ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas fournir d'efforts. Tout est au compte des parents. Moi, je pense qu'on n'est pas en train d'éduquer nos enfants. Et le gouvernement malien a une lourde tâche par rapport à tout ça.
Maintenant, du côté de Zeina Maïga de la PDF Gao, dites-nous, Zeina Maïga, pensez-vous que l'État ait une responsabilité quelconque dans le fait que les enfants abandonnent l'école pour aller chercher de l'or, se soumettant du coup à toutes sortes de risques?
Non. Si on parle de l'État, on parle de nous-mêmes. Nous sommes tous l'État, donc on doit se donner la main vraiment pour lutter contre des fléaux comme ça. Je crois que l'État a une très grande responsabilité là-dedans parce que l'État voit ce qui se passe. L'État, si l'État n'intervient pas, si l'État ne lutte pas contre cela, c'est que ça ne va pas. On doit se donner la main. Nous les parents, nous les organisations de femmes, nous les organisations les partenaires, on doit se donner la main pour tous lutter contre ces fléaux qui aujourd'hui nuit aux mamans, aux enfants et tout ce qui s'en suit. Les enfants, certes, un adage saurait dit que l'enfant peut se cacher, mais court pour chercher à se cacher, mais l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Mm-hmm. Alors, si j'ai dit l'enfant ne sait pas ce qu'il fait, si j'ai dit l'enfant court mais ne sait pas où se cacher, ça c'est un adage saurait qui le dit. Donc c'est à nous maintenant de les aider, à nous de nous donner la main pour vraiment. Et puis il faut se dire aussi la vérité, les parents aussi ont baissé les bras quelque part. Hein. Quelque part nous on a baissé les bras concernant l'éducation de nos enfants. Sinon, aujourd'hui, aucun parent ne doit laisser son enfant aller. Mais c'est nous-mêmes.
Mais dites, madame, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des cas où les enfants sont même souvent encouragés par les parents? C'est difficile
c'est
à imaginer,
non? C'est ce que je voulais dire tout de suite.
Voilà.
C'est ce que je voulais dire tout de suite, vous m'avez interrompu.
Allez-y.
C'est ici, j'ai dit, la faute nous revient nous-mêmes, la faute nous incombe nous-mêmes. Nous-mêmes, les parents, parce qu'il y a des parents qui encouragent les enfants pour aller chercher de l'argent. Et venir aux besoins de la famille ou à leurs besoins. Il y a des parents qui encouragent. Donc, si un parent le fait, moi, je me mets à sa place aussi. C'est moi, exactement aussi, je suis un parent. C'est pourquoi j'ai dit, nous-mêmes, on encourage quelque part les enfants, ce que les enfants font qu'ils ne doivent pas faire.
Alors, Lala Ouangara, qui est la présidente du Parlement des enfants, est-ce que vous pouvez comprendre qu'un papa ou une maman encourage son fils, sa fille à abandonner les bancs pour aller chercher de l'or? Vous comprenez cela?
Non, je ne comprends pas. Parce que cet enfant va chercher de l'or et amener cet argent qui va subvenir à leurs besoins pour un moment donné. Mais après cela, qu'est-ce que cet enfant va faire? Autant laisser l'enfant aller à l'école, étudier, se faire une carrière, savoir que demain, avec le diplôme qu'il va gagner, il pourra vraiment les prendre en charge et pour à long terme. Et pour un moment vraiment déterminé, un moment qui sera vraiment long pour eux. Et il va assurer toutes les dépenses de la famille, ça sera vraiment aisé. Cet enfant sera dans les conditions nécessaires pour les protéger, eux, à leur tour. Mais dès le début, quand vous laissez un enfant abandonner les écoles, aller chercher de l'enfant, il ramène, aller chercher, disons, de l'argent, il ramène cet enfant, oui, vous mangez cet argent pour un moment donné. Et après, vous faites comment? Cet enfant risque, même en allant chercher de l'argent, perdre la vie, avoir des problèmes de santé. Vous, à votre tour encore, vous qui l'avez encouragé, vous aurez des charges à avoir. Allez et soigner cet enfant. Et si cet enfant perdait la vie, sans cet enfant, vous allez faire comment? Donc, avant de prendre tous ces risques, il faut laisser l'enfant aller à l'école et laisser Dieu faire les choses, quoi. Avec le temps, c'est pas avec cet enfant que vous allez survivre. Cet enfant est en âge d'abord que vous, vous prenez soin de lui et pas que lui, il prenne soin de vous.
Madame Diawara Bintou Koulibaly.
Oui. Bon. Moi, je pense que, comme les autres l'ont dit, c'est une réalité qui est là. Hein. Les parents sont vraiment souvent fautifs. Parce que, comme ces maladies, nous avons baissé les bras. Et même les enfants à l'école, les parents, surtout nous les femmes, nous encourageons le fainéantisme à nos enfants. Le fainéantisme, c'est quoi? Un enfant qui va à l'école, depuis qu'il est né, tu l'as inscrit à l'école, tu l'as appris à aller à l'école. Et il est obligé d'étudier. À la fin de l'année, cet enfant ne passe pas. Les mamans viennent payer pour faire passer ou bien pour la lever de cette école et l'amener à... C'est pourquoi les enfants n'aiment plus étudier. Ils sont habitués à la facilité de telle manière que nous-mêmes parents, nous encourageons cela. On n'accepte pas un enfant redoublé parce qu'il est faible. Leur langage même, c'est dire, on ne fait pas redoubler, on ne fait plus redoubler un enfant. Tu donnes l'argent seulement, il passe. Donc, un enfant qui a cet esprit-là, Vous croyez qu'il va se fatiguer pour étudier? Il sait que même si je n'ai pas passé, je ne serai pas renvoyé. Donc, les parents encouragent le fainéantisme. Et concernant l'orpaillage, ça, c'est la pauvreté aussi qui fait ça. Il y a des familles tellement pauvres qu'ils pensent que l'école, le temps de l'école, là, c'est trop long pour eux. Donc, ils encouragent les enfants à aller immédiatement avoir de l'argent et tout de suite. Donc, c'est un problème qui est là et très sérieux. Mais on doit voir comment nous donner la main et pour pouvoir lutter. Parce qu'il faut savoir que le Mali aussi a dit que l'école, tout le monde doit aller à l'école. Et l'école est gratuite. Hein? Il y a une obligation. Mais ceux qui n'envoient pas leurs enfants, quelles sont les sanctions que le gouvernement a prises un jour pour dire que cet enfant a un droit qui a été violé? Obligatoirement, tu dois l'envoyer à l'école. On fait fi de tout cela. Les enfants dans les communautés de base ne vont pas à l'école.
Donc même vous voulez dire qu'on aime signer quelques fois et après on ne suit rien?
Rien. On signe les conventions, il y a la constitution qui parle de cela, mais dans l'action vraiment, il n'y a pas de sanctions. Donc chacun fait ce qu'il veut. C'est pourquoi à un certain âge, les filles ne vont plus à l'école.
Alors il nous reste juste 2 minutes. Nous allons donc donner la parole à Zeina Maïga, APDF au Gao. Dites-nous, Madame Zeina Maïga, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'enfant au Mali?
L'avenir de l'enfant serait...
Au Mali,
ok, d'accord, ça m'inquiète beaucoup. Les autres ont parlé des autres fléaux, mais il y a aussi un fléau qui est là, ça concerne les directeurs d'école. À mon avis, on ne doit pas renvoyer un enfant parce qu'il n'a pas payé sa coopérative, ou bien il n'a pas payé, ou bien confisquer ses notes parce qu'il n'a pas pu payer la coopérative, ou bien n'a pas pu payer, les frais qu'on doit payer aux parents d'élèves, à l'association des parents d'élèves. Et là, ça aussi, ça c'est un problème aujourd'hui. L'enfant va à l'école le matin, on le renvoie. On lui dit, tu n'as pas droit à la classe parce que tu n'as pas payé la cotisation. Ça, c'est très fréquent même. Et quand l'enfant fait 2 jours, 3 jours, 1 semaine sans être dans la classe, vous voyez ce que ça fait. L'enfant perd tout ce qu'il a pu apprendre la semaine dernière et n'a pas accès vraiment aux leçons de cette semaine, de toute la semaine.
Voilà, Zeina Maïga de l'APDF au Gao. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, puisqu'il est l'heure, nous allons devoir vous interrompre. C'est donc tout pour ce débat, un débat qui vous a été présenté par Seydou Fomba, à la mise en onde Peting Diarra et régie vidéo Mamadou Ouattara, réalisation Ousmane Djadje Touré. Je vous rappelle que comme invité, on avait 3 dames dans ce studio, une au téléphone, donc dans ce studio, Madame Diawara Bintou Koulibaly, APDF, Association pour le Progrès et la Défense des Femmes Bamako, Zeina Maïga, APDF Gao, qui était au téléphone, et Lala Ouangara, président du département des enfants. Au revoir.
grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.